Au premier jour de l'invasion, une partie du territoire ukrainien tombe aux mains de l'armée russe. Encerclée, la capitale résiste. Ses faubourgs sont occupés. Mais au moment où le pays jette toutes ses forces dans la bataille, il doit aussi lutter contre l'ennemi intérieur. Ces Ukrainiens accusés d'aider l'envahisseur. La guerre aux traîtres est déclarée. Des volontaires en armes traquent tous ceux qu'ils considèrent comme des saboteurs. Ils sont la loi et l'ordre. Comme ce jour-là, en pleine bataille de Kiev. Humiliation, torture, une parodie de justice d'une violence rare à l'encontre de ces hommes accusés d'avoir volé une voiture. Pour donner un cadre légal à la traque des collaborateurs, une nouvelle loi est adoptée dès mars 2022. La loi sur la collaboration. C'est une volonté du président Zelensky, un signal envoyé à son peuple qui a soif de justice.
Collabo, l'Ukraine face à ses traîtres, film documentaire de Guan Laouen Le Gouil, et qui a été proposé dans la compétition des films de plus de 40 minutes lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 1er au 5 avril. Durant le conflit russo-ukrainien, l'Ukraine traque celles et ceux qui se seraient rendus coupables d'actes de trahison. La bête noire du gouvernement de Volodymyr Zelensky, qui cherche à les débusquer, y compris dans ses propres rangs. Ce film pose deux questions essentielles. Comment ces traîtres sont-ils identifiés et débusqués? Et comment garantir à ses collaborateurs présumés une justice équitable? Avant de retrouver le réalisateur en interview, je vous propose quelques propos recueillis auprès des élèves du collège du Lazzaro de Marcq-en-Barœul à l'issue de la séance. Reportage illustré par quelques extraits du film.
Bah, c'est assez dur quand même à voir parce que faut vraiment se dire qu'il y a des êtres humains qui bombardent d'autres êtres humains volontairement, des enfants, des femmes qui n'ont rien demandé, des civils.
Bah franchement, pour moi en vrai, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai que genre niveau politique et tout, enfin Ukraine, Russie, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Ça fait vraiment longtemps et tout que ça dure. Genre même quand je regarde les infos le soir avec mes parents et tout, genre j'entends parler de ça. Genre il y a que ça, il y a des nouveaux trucs. C'est vrai que c'est voilà, bah c'est vrai qu'il y a des mauvais côtés, genre les habitants, ils se font, surtout en Ukraine, il y a beaucoup d'enfants enfin, qui sont genre, je sais pas comment expliquer, mais genre qui sont victimisés genre, par les Russes et tout. Mais ouais, mais voilà. Le film, je trouve que voilà, ça explique et que bah, j'espère que l'Ukraine va être débarrassée de tout ça et que voilà. J'espère le meilleur pour eux.
Les témoignages sont quand même assez sensibles, hein, puisque oui. C'est un sujet qui traite des traîtres. On va dire, et peut-être ton avis un peu sur ces paroles de femmes hein, qui se sont fait violer et qui sont accusées par leurs voisins de collaboration.
Moi, je pense que en fait, je trouve que c'est quand même très grave que on arrive à un stade où que les femmes, quand il y a la guerre, que ce soit des soldats russes, des soldats allemands, quand il y a entre des autres pays, la guerre entre d'autres pays, que les soldats contraires au pays. Viennent violer des femmes alors que je trouve que chacun aurait sa liberté et que pour moi ça se fait pas, il y a beaucoup trop de victimisation pour une guerre alors que des fois il y a une guerre vraiment pour pas grand chose sauf que ça part dans tout le monde et du coup pour moi ça devrait pas se passer en fait.
Et en plus c'est même que genre les soldats ils sont là juste pour leur plaisir genre en mode ils viennent, ils s'incrustent, ils s'installent, ils prennent leurs bijoux, leurs affaires. Ensuite, après, ils les violent. Enfin, moi, déjà, le sujet de viol, c'est en tant que fille et plus tard oui. femme, ça me fait vraiment mal. Genre, moi, c'est vraiment quelque chose qui me terrorise. Et surtout que là, en ce moment, on entend parler de ça, mais genre énormément. C'est voilà, c'est dur à garder ça dans nos têtes.
Moi, juste, ça me fait peur de dire que, imaginons, on est la guerre en France et qu'après, il y a d'autres soldats, ils viennent et que ça nous arrive à nous parce que bah, ça fait peur, en fait. Ça fait très, très peur. Voilà. Et qu'on n'est que des enfants pour l'instant, mais déjà, s'imaginer ça, c'est horrible. Alors.
On retrouve à présent le réalisateur Gwenlawen Le Guil en entretien pour décrypter, entre autres, quelques temps forts de son film. Gwenlawen Le Guil, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez présenté votre film ce matin, donc Ukraine face à ses traîtres, sujet sensible quand même. D'abord, il y a eu une discussion aussi avec beaucoup d'élèves qui étaient présents dans la salle. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette discussion, ce débat, ces questions qu'ils vous ont posées ?
Alors moi j'adore répondre aux questions des jeunes, et en particulier des lycéens, puisqu'elles sont souvent sans filtre, elles sont souvent naïves, mais dans le bon sens du terme, c'est souvent des questions que tout le monde se pose, mais que personne n'ose prononcer, à part des jeunes, en tout cas des questions que les adultes n'osent pas poser et que les gamins posent. Donc j'adore discuter avec les lycéens pour cette raison.
Alors, votre film documentaire ouvre évidemment sur des témoignages assez poignants de femmes violées, une femme violée notamment, qui est accusée par ses voisins de collaboration avec la Russie. Donc, expliquez-nous un petit peu comment vous avez évalué ce témoignage et comment ça s'est passé.
En fait, c'était une histoire qui était connue, puisque ce n'est pas moi qui ai sorti cette histoire, elle avait déjà été documentée, et j'étais sur la piste de cas, justement, de collaboration horizontale, puisqu'il y en a, eu beaucoup en Ukraine, suite à la reprise des territoires annexés. Et il se trouve que lors de mon dernier tournage, parce que j'ai tourné ce film pendant quasiment un an, lors de mon dernier tournage, l'avocate de cette femme m'a appelé pour m'annoncer que sa fille venait de mourir. Et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé à ce moment-là de faire l'enquête que la police n'a pas faite et de raconter cette histoire.
Qu'est-ce qu'elle devient, cette dame ? Est-ce que ça va pour elle ou est-ce que c'est de plus en plus compliqué ?
Alors oui, j'ai des nouvelles. Je suis toujours en contact indirect puisqu'elle ne parle pas anglais ni français, donc avec Galina. J'ai eu des nouvelles encore ce matin. J'en ai eu les précédentes remontées à Noël et ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort puisqu'elle a des gros problèmes, des gros soucis de santé, donc elle est régulièrement hospitalisée. Ça va pas fort parce qu'elle a des gros soucis financiers, à tel point qu'elle a dû hypothéquer sa maison. En fait, elle s'est fait dans son malheur arnaquer par des gens qui ont profité d'elle pour récupérer sa maison. Donc elle n'a plus de maison et ça va pas très fort. Et j'ai appris ce matin, c'est une décision qui est intervenue apparemment il y a quelques semaines, que l'affaire avait été classée, que l'enquête avait été classée. Donc il n'y aura pas de suite judiciaire. Au décès de sa fille, qui est probablement un assassinat.
Que dire ? Nous avons survécu à cette occupation. La plupart des voisins avaient fui ou s'étaient cachés dans leur cave. C'était la terreur. Plus de gaz, plus d'électricité, plus rien. Il n'y avait que de la peur. Même les chiens n'aboyaient plus. Un jour, une voisine a frappé à ma porte. Elle m'a dit « Galia, il y a les gars, laisse-les rentrer. Les orques, les soldats russes. Il faut absolument les laisser rentrer. Ils vont vérifier qu'il n'y a pas d'hommes chez vous. Je les ai laissés rentrer, ils ont tout inspecté. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'homme chez moi. Ils ont commencé à tourner autour de ma fille. Et je leur ai dit, ne la touchez pas. Il y en a un qui m'a dit, tu sais quoi, je n'ai pas vu de femme depuis 3 mois. Je passe d'une guerre à une autre. Alors on fait quoi? Alors ils ont fait ce qu'ils voulaient de moi. Puis d'autres sont arrivés. Et d'autres après eux. Ils jouaient avec leurs armes pour me faire peur. Et systématiquement, pendant tout ce mois-là, ils m'ont... Ils voulaient violer ma fille Nika. Je leur ai demandé de ne pas le faire. Alors ils m'ont violé moi. Le 1er avril, les orques sont enfin partis. Les voisins qui avaient fui sont revenus. Ils se sont mis à nous accuser d'être des collabos. Des collabos.
Il y a le témoignage d'un de ses voisins, ou d'un garagiste plus précisément, qui n'est pas tout rose dans l'affaire apparemment.
Oui, alors, bien que j'ai enquêté assez longtemps sur ce cas, je ne peux pas affirmer qu'ils sont responsables ou coupables, qu'ils ont assassiné, que ces deux voisins qui ont harcelé cette femme et sa fille pendant des mois suite à la libération du territoire qui était occupé par les Russes, qui les ont accusés d'être des collabos. Je peux pas absolument dire qu'ils sont coupables, mais il y a quand même un faisceau de preuves, un faisceau d'indices qui les place en tête de liste des suspects potentiels. C'est-à-dire que pendant des mois, ces deux voisins, qui eux-mêmes avaient perdu certains de leurs proches lors de l'occupation de Boutcha, ont harcelé cette femme et sa fille, les ont menacés de les violer, en particulier la fille qui avait 15 ans, 14 puis 15 ans. Ils sont rentrés chez elle, ils ont saccagé la maison plusieurs fois, devant tout le monde. Enfin, et quelques semaines plus tard, la fille est retrouvée à quelques dizaines de mètres du quartier, juste derrière, en fait, sur la voie de chemin de fer. Et donc l'affaire a été classée. Ces deux jeunes hommes ne seront jamais inquiétés.
Ça fait référence quand même à ce qu'on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, la collaboration, voilà. J'imagine que c'est une référence aussi à laquelle vous vous êtes approché pour tourner ce film.
Oui, bien sûr. En fait, l'idée et l'envie de faire ce film et d'enquêter sur ce tabou ukrainien, on va dire, puisqu'ils sont quand même relativement mal à l'aise avec cette question, avec la question des traîtres et de ce qu'ils doivent en faire. Cette idée m'est venue assez rapidement dès la bataille de Kiev, donc dès les premiers jours de l'invasion, de la grande invasion qui a commencé en février 2022, puisque j'ai assisté plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans les premiers mois de la guerre, ce qu'on voit dans le film, hein, deux fois, à des scènes d'arrestation et de torture de personnes qui étaient accusées d'être des collabos. Et quand j'ai assisté à ça, j'ai vraiment eu le sentiment à plusieurs reprises de vivre en direct en fait ce que j'avais lu, étudié pendant des années quand j'étais lycéen, puis ensuite quand j'étais étudiant en histoire. J'avais vraiment l'impression de me retrouver, enfin de vivre ce qu'on connaît de notre propre histoire en France à la libération.
Et puis il y a aussi ces enquêtes donc faites par la police ukrainienne, on va dire, avec cette intrusion dans l'intimité des gens, où ils leur confisquent leur portable, etc. Et là c'est compliqué parce que les gens ils comprennent pas en fait. Comment vous avez vécu ce moment?
Alors déjà j'ai eu la chance de pouvoir être embed avec ces unités de renseignement qui traquent les collabos. Ça c'était compliqué, et quand je les ai vus travailler, évidemment, comme tout le monde, hein, ce qu'on voit dans le film, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu contre-productif, puisque quand vous débarquez à 6h du matin ou entre 6 et 7h du matin dans un petit hameau proche de la ligne de front, où les gens déjà sont dans une misère noire, ils ont des vies qui sont souvent évidemment qui ont été impactées par la guerre, et qui voient à 6h du matin des gens, des soldats cagoulés, armés, débarquer chez eux pour leur essayer de les d'identifier, de savoir s'ils sont ou pas pro-russes en fait, puisque c'est ça la question. Et on est dans une zone où il y a une vraie question, voilà, une zone un peu grise où il y a une question, la question identitaire est très forte et très présente, où des gens parfois se considèrent à la fois ukrainiens et russes. Eh bien, voilà, comme tous ceux qui vont voir le film, le vivre avec ces soldats, avec ces agents de renseignement, je me suis plusieurs fois posé la question. Enfin, voilà, les grands-mères qu'on allait voir, enfin qu'ils allaient voir, notamment les grands-mères, étaient très choquées de les voir débarquer comme ça. Donc, c'est pas forcément très bon pour l'image de l'armée ukrainienne ou du gouvernement ukrainien.
Et puis, ben, on va en venir à la question juridique, parce que il y a alors une phrase qui est dite dans le documentaire, il y a la loi, mais il y a aussi la réalité de la guerre. Et là, j'en reviens donc à cet avocat, donc qui lui défend ses accusés, et qui lui aussi a été harcelé d'une certaine manière.
Ah bah oui, puisque son appartement, je dis pas tout dans le film, mais son appartement a brûlé, sa voiture a été sabotée, ce qu'on voit dans le film. Enfin, probablement saboté, on n'a pas la preuve définitive que c'est le cas, mais c'est quasiment sûr que ce soit le cas. Il a quand même failli se tuer en voiture ce jour-là. C'est un vrai pénaliste, si je puis dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché aux valeurs qu'il défend à travers l'exercice de son métier, la justice. Donc pour lui, c'est vital, et heureusement qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui en Ukraine. Il est loin d'être le seul, mais effectivement, il est harcelé, son appartement a brûlé il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, sa voiture a été sabotée au moment où j'y étais. Mais voilà, il a cette conscience, en tout cas cette conviction, que ce travail qu'il fait est essentiel à l'existence et à l'avenir de l'Ukraine. Et par ailleurs, ce que je ne raconte pas pour la petite histoire, pour l'anecdote, ce que je ne raconte pas dans le film, c'est que... dans le film, j'explique qu'il raconte lui-même que, vivant dans un quartier juste au nord de Boutcha, au tout début de la guerre, son quartier, son village a été occupé. Donc il a eu les Russes dans sa rue, les soldats russes sont venus parce qu'ils avaient une liste de gens qui étaient considérés par eux comme des pro-nazis. Lui avait été dénoncé par ses voisins, l'avocat, Maître Domansky, comme étant un pro-nazi, en fait, c'est comme ça qu'il les appelle. Et donc les soldats sont venus chez lui un jour pour le prendre et pour l'exécuter. Et au moment où ils ont vérifié son identité, ils sont allés sur leur téléphone portable, les soldats russes, ils ont tapé son nom, et en fait ça a renvoyé un moteur de recherche russe qui leur a montré qu'en fait il était l'avocat de Joseph Staline. Ce qui est la réalité, puisqu'il y a un vieux procès encore en cours en Ukraine aujourd'hui sur Staline, donc pour juger Staline des crimes notamment de déportation forcée, déportation de masse qu'il avait organisé sur les populations tatares. Donc ce procès par contumace est toujours en cours, c'est un procès pour l'histoire, et lui en tant que pénaliste, il défend Joseph Staline. Et donc quand les soldats russes ont vu ça, ils se sont dit « merde », ils ont appelé leur commandant qui a dit « non, surtout pas, c'est un des nôtres », et ça lui a sauvé la vie. Ils étaient venus pour le tuer, et le fait qu'ils aient découvert qu'il était l'avocat de Staline lui a sauvé la vie. C'est un homme absolument... je manque de mots pour qualifier la force de ce type. Il est extrêmement impressionnant. Ça fait partie des rencontres qui vous marquent pour la vie. Et je me sens vraiment extrêmement chanceux d'avoir croisé sa route, d'avoir pu passer du temps avec lui et d'avoir pu raconter un petit morceau de son histoire.
Pas mal de choses qui reviennent dans ce documentaire, c'est la rumeur qui se répand et qui forcément, c'est un peu compliqué parce que la rumeur elle se répand et en même temps tout le monde y croit, etc. etc.
La rumeur tue, c'est ce que j'ai pu constater, ce que j'ai documenté pendant 2 ans, pendant les 2 premières années du conflit. Effectivement, la rumeur est centrale dans cette histoire puisque les gens cherchent des coupables. Ce qui est humainement compréhensible, quand vous retrouvez votre quartier, votre village qui a été occupé, qui vient d'être libéré, et que vous trouvez vos proches, des amis, que vous trouvez les cadavres de vos proches ou de vos amis, c'est humain, vous avez envie de vous venger. Et à ce moment-là, si la rumeur commence à s'installer, et si la rumeur dit qu'un tel ou une telle a œuvré aux côtés des Russes, a collaboré pendant l'occupation, il est difficile même pour ces gens, enfin pour ces gens qui cherchent un coupable, de se détacher de cette rumeur. Donc chacun a besoin de justice et souvent la frontière entre la justice et la vengeance est extrêmement ténue, extrêmement fine. Et c'est tout l'enjeu de ce sujet, c'est tout l'enjeu de ce film aussi, que de raconter pourquoi et comment l'Ukraine, pour devenir un état de droit et pour sa propre survie, pour intégrer l'Europe également évidemment, mais comment l'Ukraine gère ces questions qui sont extrêmement difficiles, extrêmement délicates, puisque d'un côté il faut montrer, il faut prouver, l'Ukraine doit prouver qu'elle est un état de droit, et de l'autre côté le pays ne peut pas mécontenter une partie de sa population qui a soif de justice, à juste titre. Donc c'est, voilà, on est dans les zones grises de la guerre, et pour moi ça dit beaucoup de ce qu'est la guerre en général, ça dit beaucoup de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, de ce qu'elle aspire à être, et ça dit aussi beaucoup de ce conflit.
La justice, on y vient, parce que il y a quand même pas mal de juges qui sont destitués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez perçu ça? Et ce qui se passe, du coup, c'est compliqué en fait, parce que si la justice se font, les juges se font destituer à chaque fois parce qu'ils sont soi-disant pro-russes ou pas.
Alors, il y a un certain nombre d'affaires, des grandes affaires de collaborateurs. On voit dans le film un ancien patron des renseignements ukrainiens, pas le big boss des renseignements ukrainiens, mais le patron de la région de Kharkiv, ce qui était une région extrêmement sensible, hein. Kharkiv a failli tomber pendant la première phase d'invasion. Oui, alors la justice est évidemment au centre de tout ça, et ce que j'ai pu constater, notamment dans ce qu'on appelle les grandes affaires, c'est-à-dire les gros bonnets accusés d'être des collabos ou d'avoir été pro-russes, pour faire simple, il y avait parfois une dimension politique qui était assez gênante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Ukraine, si vous accusez, vous allez voir la police du coin et vous leur dites « telle personne a collaboré », la personne en question va se faire arrêter dans les heures qui suivent. Si c'est l'amant de votre femme, si c'est un concurrent en affaires, si c'est quelqu'un à qui vous voulez du mal, le problème est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans les grandes affaires, dans les gros cas, il y a souvent une composante politique. Et lorsqu'il y a une composante politique, les juges sont extrêmement embêtés, puisqu'ils savent qu'il y a une composante politique. Ils ont des pressions, ils subissent des pressions. C'est pour ça qu'il y a souvent des juges qui sont destitués ou qui eux-mêmes se destituent. Qui eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas eux-mêmes. Ces juges, parfois, enfin c'est assez fréquent, trouvent le moyen de se sortir de ces affaires puisqu'ils ne veulent pas être soumis à des pressions politiques. Ils ne veulent pas condamner quelqu'un sans avoir les preuves de sa culpabilité.
Et puis enfin, pour terminer, il y a la religion. Notamment cet archevêque, hein. La guerre des églises qui est évoquée et également. Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, c'est une question. Alors j'avais beaucoup travaillé sur ce que j'avais appelé la guerre des religieux et la guerre des religions en fait en Ukraine dès le tout début de la grande invasion. Puisque c'est une sorte aussi, ça c'est des choses qui me passionnent, c'est une sorte de guerre dans la guerre. Ça dit beaucoup de la société ukrainienne, et au moment de la grande invasion, le pays s'est trouvé confronté à un
vrai... Faut rappeler que c'était en 2014, hein, surtout.
Alors, la guerre a commencé en 2014, l'invasion massive a commencé en février 2022. Mais ce problème-là s'est en particulier posé en février 2022, puisque... il y a eu des territoires annexés et dans l'ensemble du pays, la religion qui n'est pas une religion d'État mais qui est extrêmement majoritaire, l'orthodoxie ukrainienne dépendait du patriarcat de Moscou. Comme les catholiques en France dépendent de Rome, c'est un peu la même chose. Sauf que là, ça posait un énorme problème, c'est-à-dire que le patron, le patriarche Kirill, de l'Église orthodoxe russe est très proche de Poutine, est un va-t-en-guerre. Il a dit les pires choses sur les Ukrainiens, il a incité à la guerre, il a soutenu l'invasion, etc. Et donc ils ne pouvaient plus se retrouver en Ukraine, enfin c'était très problématique pour eux parce que l'immense majorité, la quasi-totalité des prêtres orthodoxes ukrainiens dépendaient de l'Église russe. Donc ils ont voulu s'en détacher Et ça a choqué un certain nombre, une partie du clergé ukrainien qui ne voulait pas être séparé. C'est pas pour ça qu'ils étaient pro-russes, mais ils priaient beaucoup en russe. Il y avait une tradition, il y avait, enfin voilà, ce sont des questions aussi religieuses assez complexes dans lesquelles je vais pas entrer tout de suite. Et donc ils ont refusé ça, et souvent ils ont été accusés d'être des collabos. Donc il y a eu dès le début de la grande invasion de 2022, la traque aussi aux prêtres, aux bons prêtres et surtout aux mauvais prêtres. Enfin ceux qui étaient considérés comme des mauvais prêtres, c'est-à-dire pro-russes.
7000 procédures pénales sont aujourd'hui à l'instruction. 350 collaborateurs ont déjà été condamnés pour trahison. Mais comment garantir une justice impartiale? Une justice équitable, alors que la guerre fait rage?
Reportage réalisé lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 1er au 5 avril. On était en compagnie de Gwen Lawen Le Gouil, réalisateur du film documentaire Collabo, l'Ukraine face à ses traîtres, qui était en lice dans la compétition des films de plus de 40 minutes. Et ce film a reçu le prix spécial du jury.